RTL l'équipe, carrément tennis, Eric Silvestro.
Bonjour à tous, bon début de matinée sur RTL l'équipe, votre radio numérique du sport et de l'info. Comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la petite balle jaune et elle est riche. On reviendra d'abord sur la désillusion du week-end, la défaite et l'élimination de la France en Fed Cup face à l'Italie. 5-0, la France condamnée à jouer un barrage contre la Slovaquie. Difficile donc début et baptême du feu pour le nouveau capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, Nicolas Escudé. La bonne nouvelle du week-end, c'était la victoire à Johannesburg de Joe Wilfried Tsonga dans une finale 100% française face à Jérémy Chardy Tsonga qui repart donc sur de bonnes bases en ce début d'année 2009. Nous reviendrons bien sûr sur les tournois en cours cette semaine. Rotterdam chez les hommes, ça se passe très bien pour les Français. Et puis l'Open Gaz, bien sûr, à Coubertin chez les jeunes filles. Là aussi, ça se passe pas mal. Et puis il y a une grande star, Serena Williams, qui nous a fait un grand numéro auprès de Myrtille Rambion. Vous l'écouterez tout à l'heure. In French, s'il vous plaît. Serena Williams, numéro 1 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie. À 11h30, nous serons en direct avec Lionel Roux, le nouvel entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. L'ancien coach de Mikael Audra nous rejoindra pour discuter un petit peu de ses nouvelles fonctions et comment il va gérer les anciens et les nouveaux avec les mousquetaires notamment. Et puis nous parlerons bien sûr de l'élection de Jean Gachassin, nouveau président de la Fédération Française de Tennis. Après 16 ans sous l'ère Christian Bim, quelles nouvelles orientations pour l'ère Gachassin, l'extension de Roland-Garros, le retour de Noix, bref, plein de nouvelles choses avec Jean Gachassin. Nous y reviendrons tout à l'heure avec tous nos spécialistes.
RTL l'équipe, jusqu'à midi, carrément tennis.
Parité parfaite dans le gouvernement de carrément tennis aujourd'hui. Deux hommes, deux femmes, honneur à ces jeunes filles. Myrtille Rambion d'abord, salut Myrtille.
Salut Eric.
Qui suit, alors elle n'arrête pas, hein. Après l'Open d'Australie, elle
jeune
enchaîne.
Jeune fille.
Quoi ?
Ce sont des femmes.
Pardon.
Ouais. Enfin, surtout une des deux, on va dire. En fait.
Bon, alors Myrtille, donc, jeune fille, je maintiens jeune fille.
Merci.
Ça vous va bien ?
Oh, mais très bien. Viendrez me voir à mon bureau, Benoît.
Jeune femme, pardon. Pour Corinne Tonchet.
Oh, ça commence bien.
Bonjour Corinne.
Salut la Vioc.
Je vais peut-être y aller, moi.
On va y aller, Corinne, on s'en va.
Benoît Mélin, le trublion. Salut Benoît.
Bonsoir.
Et notre mangeur, non pas de cerises à l'eau de vie, il s'est mis au maïs transgénique désormais, puisque c'est bon pour la santé.
Ah bon ?
C'est Julien Varlet.
Bonjour à tous.
Non, il paraît qu'il n'y a pas de souci avec le maïs transgénique.
Très saucisse donc. De Meurthaud. Hein,
ouais, il est bio ou pas
Sur la saucisse, oui.
Ouais. Vous êtes bio, Julien Varlet ?
Je suis bio de partout.
Bon. Bio de partout, je sais pas ce que ça veut dire.
Ça
bon, comment ça va bien d'abord ?
Mais ça va très bien.
Allez, on part d'abord de l'actu du week-end dernier avant de se plonger sur celle de cette semaine. Alors, on commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle ?
C'est quoi la...
Bah, la bonne, c'est la victoire de Tsonga à Johannesburg. Ah. La mauvaise, c'est quand même la désillusion de l'élimination en Fed Cup. Vous avez suivi le tennis ce week-end, Benoît ?
Ou...
Vous étiez là ou...
Je pense que normalement, vous suiviez.
Ouais, bon, la Fed Cup.
Allez, la Fed Cup. Allez, on reste sur les filles d'abord.
Déjà, moi, je trouve que c'est un scandale, tout simplement. Parce que, non, de perdre, bon, on peut perdre contre l'Italie, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui s'est passé avec Flavia Pennetta, pour moi, c'est indiscutable. Ça aurait été sur peut-être un autre tournoi, un joueur ou une joueuse moins forte. Moi, je l'ai vécu à mes dépens, donc je sais pertinemment, sans faire un doigt ni quoi que ce soit, hein, sans être aussi vulgaire. Mais si je trouve ça normal, elle doit prendre au moins un point de pénalité. Normalement se faire disqualifier, ensuite avoir une suspension et aussi une amende.
Alors on va remplacer les choses dans leur contexte pour ceux qui n'ont pas suivi ce match France-Italie de Fed Cup. D'abord, la France a été battue 5-0 par l'Italie, donc ça on y reviendra tout à l'heure sur le volet sportif. Ça a débuté donc par un premier match entre Flavia Pennetta et Amélie Mauresmo qui menait un 7-0, qui a eu balle de match, qui menait largement dans le troisième, qui a 30 balles de 5-1, qui finalement a perdu. Et à la fin du deuxième set, au tie-break, à 6 points partout, Myrtille Rambion, il y a eu, on va dire, un petit agacement, un petit énervement, un gros même.
Il y a eu sérieux pétage de
plomb, Flavia Pennetta, l'italienne, ouais. Qui aurait, j'utilise encore le conditionnel, même si ça semble quand même désormais avéré, fait un joli doigt d'honneur et insulté l'arbitre de la rencontre.
Bah, elle l'a clairement fait, on le voit sur les ralentis. On voit qu'elle utilise des mots pas jolis du tout, même si on parle pas bien italien.
En trois langues, vous m'avez dit.
Oui, enfin, elle l'a pas fait en français, parce que voilà, mais en italien et en anglais, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même l'arbitre de chaise. Moi, à sa décharge, elle voit le geste que lui fait Flavia Pennetta, elle se retourne vers le superviseur Andrea Selli, et on la voit faire de la main gauche un geste qui veut dire stop. On stoppe. On regarde.
Basta.
Donc elle l'a vu clairement et elle demande, mais à sa décharge, elle a un superviseur au-dessus, c'est lui qui décide. Mais ce qui s'est passé, c'est que derrière, donc ça donne balle de match à Amélie Mauresmo, sixième double faute de la rencontre. Voilà, et après le match est relancé.
Voilà, c'est dingue ça.
Amélie n'a pas vu sur le site.
Moi, je veux pas, surtout pas qu'on raconte cette histoire en disant que.
À parce cause qu'elle de
ça. C'est ça, qu'Amélie n'avait pas vu.
Personne n'a vu ça. SQD, tout ça. Personne ne regardait ce que faisait Pénéta.
Mais quand même, les principaux intéressés, c'est quand même l'arbitre et le juge arbitre qui le voit.
Non, mais d'accord. Parlons du problème du geste, mais ne parlons pas du résultat.
Le match, elle doit gagner deux fois. Au tie-break, elle a le balle de match.
Balle de match, double faute. Et après, elle mène 4-1, balle de 5-1.
Mais pour revenir à l'aspect amende et tout ça, elle a une amende, 2000 dollars, c'est pas beaucoup,
non,
mais bon.
C'est
scandaleux. Non, mais la chose, c'est que dans le règlement, en fait, les arbitres ont une latitude. Et ce qui se passe, c'est que, et c'est vrai, hein, quand vous demandez au juge arbitre, il vous explique ça, que si le joueur ou la joueuse fait ce geste en reculant, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement agressif vers le juge de chaise, et ben on considère que voilà, il y a juste pétage de plomb.
Oui, McEnroe serait monté sur la chaise et aurait mis le directement devant l'arbitre.
Moi, je l'ai vécu à mes dépens. Je me suis fait disqualifier pour un geste qui était 10 fois moindre. C'était au Pérou contre le numéro 1 péruvien qui s'appelait Luis Horna. J'étais 500 mondial, j'avais pris 2000 dollars d'amende, disqualification. Là, c'est télévisé. C'est un match où on représente son pays. Je veux dire, c'est assez hallucinant qu'elle ne soit pas disqualifiée.
Oui, mais
quoi.
Peut-être qu'elle s'est dit, mais en fait, elle me montre qu'elle a un ongle cassé ou un carnet.
C'est comme Zidane filles, qui met un coup de boule. Je veux dire, Zidane, il met un coup de boule. C'est pas le juge au centre qui voit la faute, mais c'est le juge de ligne. Et je trouve ça hallucinant. Une fois de plus, les arbitres ne prennent pas leur responsabilité.
Alors, y a-t-il une part, Corinne Tonchaille, de psychologie aussi? Parce que c'est le premier match de la rencontre de Fed Cup entre la France et l'Italie. Imaginez, vous disqualifiez Pénéta sur le coup. Premier match de la rencontre, ça va vous mettre une ambiance mais détestable. Eric, alors que ça donne quand même balle de match à Mauresmo et que l'arbitre se dit, de toute façon Mauresmo va gagner juste derrière et cette affaire personne n'en parlera plus.
Là, je pense qu'il y a un problème sur les arbitres. Julien, vous parliez de foot. Moi, je voudrais revenir au hand où quand on touche un arbitre, quand on s'approche d'un arbitre, on l'a vu sur la finale du championnat du monde au handball, on n'a pas le droit de toucher un arbitre, de s'approcher même de l'arbitre. Donc il y a un respect à avoir des arbitres. Si on les a pas et si on les montre pas dans des sports et avec des gens comme des champions, où va-t-on? Donc là, Myrtille disait que le superviseur n'avait rien fait. À un moment, il faut respecter l'arbitre. Et là, quelle que soit la rencontre, soit la première, la dernière, l'avant-dernière, on s'en fout. Il y a une attaque personnelle envers l'arbitre. Il y a des sports dans lesquels ce n'est pas possible. Et je pense que si vraiment dans tous les sports, on faisait comme au hand, c'est-à-dire que là, l'arbitre, il a pris un risque au hand. Il a mis un carton rouge dans la salle à Zagreb, face à la Croatie, dans une salle qui était surchauffée, donc il a pris un maximum de risques. Sauf qu'il y a un règlement, le règlement dit on ne touche pas à l'arbitre. Si vraiment le règlement en tennis et en foot était appliqué, les arbitres seraient beaucoup plus respectés. Donc là, on s'en fout de savoir si c'est le premier ou le dernier match.
En tennis, il y a rarement de problème, quand même. Il faut quand même le souligner.
Andy Roddick, à l'Open d'Australie l'année dernière, il insulte l'arbitre, il le traite de stupide et tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses
mais
qu'on voit.
Je me fais volontairement l'avocat du diable. Hein.
Mais
si on enlève aussi un peu ce folklore, je veux dire, quand McEnroe, on regarde aujourd'hui les images de McEnroe, tout le monde se dit ah oh, c'était génial, des personnages comme ça, il y en a plus, tout est aseptisé.
C'était pas la même époque, c'était il y a 20 ans et le sport maintenant.
Quand Safin baisse son franc à Roland Garros quand la balle touche le filet et qu'il se retrouve
comme pour ça, moi j'ai été disqualifié.
Non mais il prend un point de pénalité, moi je trouve ça scandaleux, c'était drôle sur le coup.
Entre baisser son short, ça peut être marrant, en plus c'était un point dingue, et faire un doigt à un arbitre, il y a quand même une petite différence. Et
qu'elle prenne point de pénalité, en l'occurrence ça aurait fait mal de
jeu. Je pense que c'est beaucoup plus grave.
Si ça avait été en Italie. Alors là, si ça avait été en Italie, il n'y avait pas non plus 50 000 personnes, mais ça aurait été en Italie, je pense que derrière, les Françaises, elles ne pouvaient plus jouer. Hein. Les Italiens auraient gueulé, ça aurait fait une bronca de dingue, et là, on ne pouvait plus jouer. Nous, une fois de plus, ça se joue en France, on est toujours bien gentil, on est bien élevé, et à la fin, on prend 5-0.
Trop bon, trop comme on dit dans le jargon, Benoît Mélin.
Je sais pas, non, mais de toute façon, c'est toujours la même histoire, quoi. On a des juges arbitres, en l'occurrence, Andrea Segli, on le connaît bien, le petit Suisse, là. Il est gentil comme tout, mais enfin,
il est Suisse, il est neutre. Hein.
Il est mou comme un foie de veau. Le mec, il a jamais pris une décision de sa vie. Donc là, tout d'un coup, c'est un peu chaud dans son histoire. Il bouge pas, quoi. Alors que. Il est évident, ils peuvent nous raconter n'importe quoi sur le fait que elle est en train de reculer, puis c'est pas évident dans la gestuelle italienne, est-ce qu'elle fait véritablement un doigt, est-ce que vraiment elle s'adresse à l'arbitre, ça, faut arrêter les conneries, cette fille méritait une sanction, alors après à quelle échelle, ça c'est pas évident certainement à mettre en place, mais elle méritait une sanction, il n'y en a pas eu, 2000 dollars d'amende, faut arrêter les conneries quoi.
Donc elle gagne le match hein, Flavia Pennetta quand même, et donc elle donne le premier point à l'Italie, derrière là aussi match un petit peu étrange entre Schiavone et Cornet avec 2-0 pour l'Italie grâce à 8-6 au troisième. Cornet qui derrière le lendemain prendra une raclée, une doudoune comme vous dites, face à
Pennetta. Cornet nous fait une Svonareva, elle chiale pendant deux jours, moi
alors,
personnellement
Cornet rattrape sur par... quand on est rattrapé par ces démons sur ce match. Alors, elle est propulsée numéro 1 française.
C'est pas évident.
Elle est toute jeune encore. Oui, et c'est vrai que là-dessus, elle a manqué de bouteilles, d'expérience tout simplement.
Elle a toujours pas gagné, la fillotte.
Elle a toujours pas gagné en Fed Cup.
Non, mais là, oui, elle manque d'expérience, mais je pense que ça va lui servir d'expérience. Elle s'était déjà, puisque tu parlais de pleurer face à sa finale à l'Open d'Australie, on a vu aussi qu'elle s'était effondrée. Il faut qu'elle apprenne à vieillir, à mûrir et encaisser pour avoir, pour après pouvoir s'en servir. Et en fait, Cup, je pense qu'elle en a vraiment besoin.
Ouais, Myrtille, ça a été dur pour Alizé Cornet de tout supporter, on va dire, sur ses frêles épaules.
Elle
encore.
En est consciente, hein, et comme disait Corinne, effectivement, elle-même a conscience d'avoir sans doute acquis de l'expérience. Mais bon, Alizé qui pleure, franchement, moi, pour la connaître sur les cours depuis qu'elle a 11 ans.
Elle a souvent
c'est
pleuré.
Pas grave, ça, c'est ça, vraiment, c'est pas grave.
Mais ah ce non, c'était pas, ce est... c'est pas, non, c'est, non, c'est pas les larmes, en fait, tu vois, c'est cette espèce d'attitude. De...
Oui, mais elle a
c'était une pression
eu, ça,
complètement
c'est...
négative. Elle était en train de s'auto-détruire
oui, mais
pendant
parfois,
les matchs.
Parfois, elle est capable de s'en ressortir. Non, mais son premier match a été vraiment, à part le premier set qui était vraiment pas bon, deuxième et troisième, vraiment très, très bon, très, très accroché. Et après, dimanche, bah, elle l'a dit, hein, trop de pression, voilà. Elle savait qu'ils étaient menés 2-0, qu'il fallait qu'elle gagne. Elle n'a pas supporté. Elle dit, je ne sais pas comment ça se fait, il faut que j'apprenne à gérer ça. Ce n'est pas du tout comme de rentrer sur un court en tournoi de simple, donc il faut que j'apprenne.
Mais j'en ai discuté un petit peu avec Pierre Bouter hier, parce que je l'ai croisé au GDF.
L'entraîneur d'Alizé
Cornet. Et il me disait, la différence, c'est que voilà, en tournoi, elle joue pour elle-même, et là, il y avait aussi pour jouer pour les copines. Et automatiquement, c'est une situation qu'elle ne connaît pas encore très très bien. Et elle s'est mis encore un peu plus de pression. Elle voulait plus pour jouer pour ses copines d'équipe que pour elle-même. Et automatiquement, elle s'est un peu trompée dans son comportement.
Alors, Corinne, pour les copines, pour la France et pour Nicolas Scudé, qui aura vécu un sacré baptême du
feu. Oh, le pauvre.
Là, il est en train de se dire, Nicolas Scudé, mais qu'est-ce que je suis venu faire
dans cette galère ? Ah, mais ce sont les filles. Il va falloir qu'ils comprennent que ce sont des filles, qu'il a la charge de filles. Et voilà.
Heureusement, voilà, on a une émission de tennis, donc autant dire, Nicolas Scudé, le tennis féminin, ça n'a jamais été un mariage d'amour. Hein.
Non. Il a plutôt balancé sur les filles en général.
Quand il était joueur, déjà.
Pas comme pas de cash, mais pas loin.
Ça l'intéressait absolument pas. Après, quand il a arrêté, bon, ça l'intéressait toujours pas. Là, il est propulsé capitaine de cette équipe de Fed Cup. Pourquoi pas ? Parce qu'apparemment, il a fait du bon boulot. Julien l'a suivi. Mais toujours est-il que là, son week-end à Orléans, genre plus de 5 heures le premier jour sur la chaise, et il était concentré, le gamin. Hein. Je peux vous dire qu'il est lâché pas.
Il a beaucoup parlé, hein, d'ailleurs.
Mais fini. Alors, purée, quelle purge !
Alors, d'ailleurs, purge. Il s'est un peu lâché.
Pour se prendre 5-0.
Il s'est un peu lâché, Nicolas Scudé, après coup. Baptême du feu, bah, il le reconnaît lui-même, hein, sans langue de bois. Difficile comme première expérience sur la chaise de capitaine de cette équipe de France de Fed Cup.
C'est littéralement une branlée, d'autant plus à domicile, ça fait d'autant plus mal. On le savait déjà hier qu'on était mal barré. C'est dur, franchement là c'est dur. Pour d'autant plus une première, baptême du feu, on va dire, réussi pour moi. D'autant plus quand l'entraîneur a été joueur et qu'il voit que ses propres joueuses n'arrivent pas à refaire surface, n'arrivent pas à faire abstraction un petit peu du fait qu'on ne sent pas forcément bien la balle aujourd'hui, dû après à plein de paramètres. La tension, la nervosité, l'enjeu. Il y a plein de choses qui peuvent arriver à rentrer en compte, mais voilà, un match de tennis, dans la majeure partie des cas et tout au long de l'année, ça se gagne avec autre chose qu'avec le coup de raquette.
RTL L'Équipe, jusqu'à midi, carrément tennis, Eric Silvestro.
Voilà, il y a du boulot pour Nicolas Scudé avec ses filles, avec un barrage de tous les dangers quand même à venir face à la Slovaquie. Alors la Slovaquie, c'est Cibulková, Antuková. Ça va pas être facile. Hein.
Bah non, il y avait deux équipes à surtout pas se prendre au tirage au sort qui a été réalisé mardi. C'était la Serbie, Ivanovic, Jankovic, et la Slovaquie. Oh, ainsi.
C'est plus simple la Slovaquie.
Oui, il vaut mieux encore la Slovaquie.
Oui, sauf que Dominika Cibulková, elle est quand même en pleine bourre. Ouais. Que là, Antuková, elle a peut-être glissé au classement, mais c'est parce qu'elle était blessée et ça va beaucoup mieux.
Puis
ça
peut-être un piège.
Ça va dépendre de la surface.
Comment on dit déjà aller en slovaque ? Domé, non, comment c'était ?
Paumé.
Ouais, mais il y a un moment, il faut arrêter. Je veux dire, on est quand même une grande nation. Moi, je le dis, je le répète depuis un an. Moi, ce qui m'inquiète vraiment,
attendez,
c'est derrière...
Attendez, on est ou on était une grande nation chez les filles ?
Chez les filles !
Chez les filles, on est largement au-dessus de Antuková, si vous voulez.
Si on se prend 5-0 contre l'Italie, je suis pas d'accord.
Ça me fait penser à l'équipe de France de foot où on est tous en train de s'angoisser parce qu'on va jouer la Lituanie. Il faut arrêter les conneries, quoi. C'est l'équipe de France face à l'équipe de Lituanie.
L'équipe de France de Fed Cup.
Et là, on a l'équipe de France de Fed Cup contre l'équipe de quoi de, c'est quel pays ça ?
Slovaquie.
Non, mais faut arrêter. Si on n'arrive pas à taper les Slovaques, on arrête.
Avec un dossier comme
ça. Même les Américaines.
On tape pas les Italiens.
Même les Américaines avec une 5e division, elles ont réussi à se qualifier.
C'est vrai.
À surveiller quand même ou pas l'entrée dans cette équipe de Fed Cup de Marion Bartoli, qui sera quand même peut-être aussi un élément central de ce barrage.
Oula, mais... comme t'y vas.
Voilà. Hein. Nicolas Escudé a botté en touche en disant elle veillera avec la Fédé et le nouveau président.
Non, mais c'est vrai que la
parce qu'il ne veut pas, hein, il l'a répété, il ne veut pas de,
moment, la
du
source,
papa de Marion Bartoli dans l'encadrement.
Il faudrait pas que pour Alizé Cornet, ça devienne une angoisse d'arriver sur cette Fed Cup, toujours pas gagné de simple. Ah là là, mon
un
Dieu,
peu comme Polo dans les 5-7.
Non, mais j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des joueurs et des joueuses qui ont vécu des expériences trop traumatisante avec ces rencontres de Fed Cup ou de Coupe Davis, enfin par équipe quoi, parce que c'est différent. Et je voudrais surtout pas que ça bloque Alizé Cornet.
Le barrage de Fed Cup face à la Slovaquie pour la France, ce sera les 25 et 26 avril prochains.
RTL l'équipe, carrément tennis.
Alors ça, c'était la désillusion du week-end. Le sourire du week-end, c'était celui de Joe Wilfried Tsonga, vainqueur à Johannesburg. Face à Jérémy Chardy, bah, déjà cocorico, 100% français, bah, cette
moi,
finale.
Moi, je noterais encore un peu plus.
La finale de Chardy ?
Ouais, voilà. Parce que Joe arrivait en tête de série numéro 1. Il était quand même plutôt motivé parce que ça fait longtemps qu'il parlait de ce tournoi-là. Donc, logiquement, il devait aller en finale. Il n'a pas perdu un set. Donc, c'était plutôt, il a fait son boulot. Par contre, c'est vrai que Jérémy, il est arrivé, il était à peu près 70. Il sort du tournoi.
61.
Il rentre dans les 50, 48, il me semble même. Ouais. Il bat Ferrer. Il fait des bons matchs. En plus, en sauvant 3 balles de set. 3 balles. Match, pardon, même si Fer ne joue pas son meilleur tennis actuellement.
Non, il a encore perdu à Rotterdam, ouais, d'ailleurs.
Faut toujours se le taper. Donc vraiment, Jérémy, une fois de plus, moi je trouve qu'il fait vraiment son petit bonhomme de chemin. Il travaille bien, il fait son truc propre, sérieux, donc c'est parfait.
Il bosse dans son coin, il rentre dans les 50. C'est vrai que c'est linéaire, Myrti Rambion pour Chardy. Ça avance bien doucement.
Ouais, c'est linéaire, mais il a encore progressé, puisqu'on le rappelle, hein, cet hiver, il a décidé d'aller encore plus vers l'avant. Il a travaillé son revers
slicé,
voilà, donc ça va beaucoup mieux. Et dans cette finale, ce qui était vraiment incroyable, c'est quand même qu'ils sont très bien comportés tous les deux et que jusqu'au 10e jeu du premier set, il n'y a pas eu un break. C'est 6-4 pour Tsonga, mais c'est vraiment un niveau de jeu super. Bon, il y a du déchet, forcément, mais c'était sa première finale sur le grand circuit, Jérémy Chardy. Il y en a qui se seraient effondrés pour moins que ça. Ben non, il a été très sérieux.
Le gros match la veille, hein, qui a duré très longtemps face à Ferrer, donc physiquement, il a tenu le coup. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis pour Tsonga aussi, troisième titre. Bon, après... on va dire la demi-désillusion de l'Open d'Australie où il perd en quart, hein, ce qui était déjà pas mal après la finale de l'an dernier.
Contre Verdasco.
Il rebondit tout de suite, Joe, voilà, il montre qu'il est là et qu'il sera là.
Non, bah voilà, il a un niveau moyen, il est 14e, bon, il a baissé un peu, il est installé dans les 20. Il a tapé qui dans ce tournoi potentiellement bien.
Non, il a fait son boulot.
Il a fait son boulot. Voilà.
Tête de série
il est allé. En plus, c'est en altitude, les balles volaient dans tous les sens. Il a lâché quelques boulards en première.
231, bon, j'ai vu, hein, il me semble.
Il a un avantage énorme psychologiquement, on s'en rend compte maintenant sur les finales, puisque à part sa finale contre Djokovic, l'Open d'Australie de l'année dernière.
Il gagne à Bangkok, il gagne à Bercy.
Maintenant, il le sait, enfin, il le dit lui-même, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue une finale, je joue mieux. Donc le mec, il rentre sur le court en se disant, de toute façon, même si j'ai très bien joué avant, je vais encore mieux jouer. Donc c'était pas simple pour Chardy. Moi, je voudrais dire Chardy déjà, bingo one, 3 balles de match contre Ferrer, 7-6 au 3ème, c'est quand même énorme. Il nous a montré qu'il avait progressé, qu'il avait réussi à mettre ce tennis en place rapidement pour être effectif dès le début de l'année 2009. Et surtout, le bouquet de fleurs, le panier garni avec le cochon grillé pour Sébastien de Chonac, qui sort des qualifs, qui fait quart de finale, qui fait un très bon match contre... Chardy en quart de finale. Et je trouve que de Chonac, ce mec-là, il était condamné il y a 2 ans avec sa rupture de tendon d'Achille. Il était, même lui, il disait qu'il jouait un 6 à un moment. Et voilà, il est revenu, il nous a fait un super truc à l'Open d'Australie, perd contre James Blake en sortant des qualifs. Il continue en Afrique du Sud. Je suis curieux de le voir, un petit pépère.
N'en attendons pas grand-chose quand même.
Je l'ai eu au téléphone lundi soir et il est en pleine révolution parce que le nouveau système, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir, le nouveau système de points de l'ATP l'irrite un petit peu parce que là, en gros, il a perdu 30-40 places, mais il perd aussi beaucoup d'argent. Donc il y a pas mal de choses qui font qu'il est un petit peu tendu, mais je pense que c'est aussi sur la généralité des joueurs, le nouveau système de points n'est pas terrible.
Et puis sur Joe Tsonga quand même, Corinne Tongchai, c'était sur le continent africain, ce tournoi à Johannesburg, on sait que ça lui tenait particulièrement au cœur, on l'a beaucoup vu, il a beaucoup donné pour l'ATP, il est allé se balader à la rencontre des enfants, etc. C'est bien pour lui aussi, sur ses racines, sur ce qu'il a au fond de lui.
Ouais, il a confiance depuis pas mal de mois maintenant, mais surtout Jérémy Chardy fait preuve, il est jeune, je me rappelle d'Henri Lecomte qui me disait que c'était un bon bon brin de fraîcheur sur le tennis français. Et là, non seulement en demi-finale, il n'a pas été ridicule, il a fait preuve d'un mental qui était absolument incroyable face à Ferrer. Et en finale, pour sa première finale, il a aussi un gros mental. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien les joueurs français quand ils jouent bien, et surtout quand ils ont un mental solide.
Puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand vous répondez à mes questions. J'ai posé à tout le monde Tsonga et tout le monde m'a répondu Chardy. Bah ouais, vous voulez pas parler de Joe Tsonga, je lui dirai, il viendra vous fracasser la tête la prochaine
il
fois.
Tape, pour vous. Il tape Federico Gil en demi-finale, portugais. Ouais, il peut y aller en clapette contre
mais d'accord.
Comme ça.
C'est
en clapette.
Bah ouais.
On peut pas dire tong, c'est ça que vous voulez dire?
Tong.
RTL l'équipe jusqu'à midi. Carrément tennis. Éric Silvestro.
Comme tous les jeudis, l'actualité de la petite balle jaune avec Myrthe Rambion, Julien Varlet, Benoît Mélin et Corinne Tongchai. Après les épreuves de la semaine dernière, celle de cette semaine, deux tournois nous intéressent particulièrement, un chez les garçons, un chez les filles. Rotterdam d'abord chez les garçons, tournoi aux Pays-Bas extrêmement rapide en indoor et ça marche bien Julien. Et hier surtout, on a fait un carton plein.
Ouais, et puis surtout une fois de plus un tableau assez énorme hein, cette semaine à Rotterdam. Et puis nos petits Français jouent plutôt plus que pas mal. Avec un peu de réussite parce que Margiquel lui avait perdu au dernier tour des qualifs, il a été lucky loser, il vient de passer son premier tour. Donc vraiment, on espère commenter Rotterdam ce week-end.
Alors on retiendra, Benoît, la victoire notamment de Benedetto sur Davidenko hier, 6-3, 6-2. Benedetto qualifié pour les quarts. Tsonga s'est qualifié également, il jouera Toursounov. On a Monfils, on a Laudra qui s'affronte d'ailleurs pour une place en quart. Laudra qui a battu Karlovic en indoor, hein, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Simon également qui joue contre Rancic. Et nous avons Polo Mathieu qui a battu Richard Gasquet. Première
grosse
défaite
perf,
de Gasquet.
Hein.
Contre un Français depuis le début de l'année. Il avait fait 4 matchs, 4 victoires contre ses compatriotes. Là, il a un peu fait une Mauresmo pour le coup en Fed Cup. Non, mais il avait le match en main. Il mène un 7-0, il a break dans le 3ème. Il est au-dessus, quoi. Après, il est au-dessus.
Voilà. Et le mental. Pardon.
Non, alors ça y est, Corinne Tongchai se frotte les mains quand on parle de défaite de Richard Gasquet.
Non, pas du tout. C'est parce que j'ai parlé de Jérémy Chardy et du gros mental qu'il avait et comment il gagnait ses matchs. Donc là, c'était exactement l'exemple parfait.
Ouais, bon, il est pas mal, Richard Gasquet.
J'ai pas dit qu'il était mal, j'ai dit que c'était voilà,
Gasquet
perd le match.
Gasquet n'a pas le droit de perdre.
Voilà,
un premier
il perd
tour
le match, pas sur son tennis.
Non.
Ouais, mais il perd sur un Français. Il perd pas sur un. Non, oui, non, mais je suis d'accord. Mais il perd sur un Français une fois de plus. C'est toujours un peu les matchs entre
en début d'année. Il tape tous les Français.
Ouais, l'année dernière, Nadal perd bien au premier tour contre Seppi. Il a failli d'ailleurs être éliminé. Ouais, alors, failli, c'est vrai, vous allez me dire. Il a quand même gagné.
Mais
il gagne 7-5 au 3ème contre Bollé.
Moi, ce que je ne comprends pas. C'est qu'est-ce que fout Nadal à Rotterdam? Ce mec va avoir une gestion de saison 2009 de dingue. Qu'est-ce qu'il vient foutre à Rotterdam? Pourquoi ne se pose-t-il pas au moins une semaine, voire deux semaines? Qu'est-ce que ça lui fait de jouer Rotterdam ou Marseille,
moi,
je sais pas quoi?
Je pense quand même que dessous, il y a plus des histoires, peut-être pas financières, mais des histoires de sponsors. Parce que le siège Nike, Europe est à Rotterdam. Il y a pas mal. Je pense qu'il y a aussi une histoire de sponsor plus qu'un aspect vraiment tennistique.
Ah, il y a peut-être aussi vraiment, il veut travailler en indoor.
Non, il en a rien à carrer de Rotterdam.
Non, je sais pas. J'essaie de trouver une valeur sportive à ce défi.
Non, je comprends
que
pas.
Que se lance Raphaël Nadal à Rotterdam.
En plus, ça m'énerve. Encore une fois, si jamais après.
Bon, Murray là aussi. Hein.
On peut avoir. Mais Murray, c'est autre chose. Murray, il n'a pas gagné l'Open d'Australie. Murray, il a une saison à nous. Voilà, Murray, il doit être là, quoi.
D'accord.
Murray, c'est son boulot, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas Federer, il n'est pas là. Il n'en a rien à foutre, Federer, de jouer à Rotterdam.
Non, mais Federer, c'est pour les grands chelems maintenant. Donc,
bah,
c'est fou d'être à Rotterdam.
Nadal aussi, quoi. Nadal, qu'est-ce qu'il vient
faire? Federer, il ne peut pas pleurer toutes les semaines non plus. Il faut qu'il recharge les larmes.
Imaginez que Nadal, s'il fait sa saison sur ciment, comme il est capable de le faire, entre Indian Wells, Miami, derrière, blam, c'est parti pour la terre battue. Derrière.
Non, mais il joue un tournoi.
Derrière, l'été américain sur le
ça va, il va pas se tuer non plus, il joue Rotterdam, ça va.
Il joue
quoi,
que Rotterdam. Hein.
Cela dit,
on verra.
Cela dit, pour revenir à ce qu'on disait, en plus, pour certains des joueurs qui sont dans le tableau, ce style de tournoi-là leur apporte strictement rien. Au niveau points, ça leur apporte strictement rien.
Non, mais là, vous l'avez dit, il y a le siège de Nike à Rotterdam.
Moi, je pense qu'il y a une histoire plutôt de sponsor
mais
de coups.
Mais
que...
son entourage, ils peuvent pas dire stop, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sponsor
Non, mais après, il peut aussi aller faire, vous allez voir que, oh, je sais pas, je le vois bien encore battre Dimitrov. Et puis derrière, il y a quand même Tsonga qui arrive.
Ah, mais il peut,
voilà, il aura fait deux tours.
Il peut gagner le tournoi. Hein.
Non, mais vous verrez, il va pas.
De toute
façon, lui, et pas ça, une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où il met le pied sur le terrain, il va essayer d'aller au bout. Donc il sera probablement dans le dernier carré. Hein.
Pardon? J'écoutais pas, je parlais à Richard. Oui.
On va parler ensemble, je pense qu'on va laisser de ce côté un petit peu.
Vous aimez bien ma veste, c'est ça, vous voulez dire?
Non, mais vous êtes coupé les cheveux.
Vous avez mis
aussi.
Hey, bon, je vais arrêter. C'est ma fête.
Il s'affûte pour me jouer au tennis.
C'est ma fête. Il y a, en septembre, il y a les championnats de France, il faut être prêt. Hein. Faut se préparer dès maintenant. Parce que bon, nous, on n'est pas comme Nadal, on se prépare pas en 5 minutes, vous voyez.
Et puis pas à Rotterdam, surtout.
Non, pas à Rotterdam. Donc vous disiez, excusez-moi.
Non, je disais qu'à partir du moment où il met le pied sur le terrain, c'est pour aller au bout. Donc,
Ça, c'est sûr.
Voilà.
Raphaël Nadal.
Enfin, si tu le vois dans le dernier carré, ça veut dire qu'il tape son gars en quart.
Ouais. Un Nadal Tsonga, moi je suis quand même curieux de revoir ça.
Ouais, mais attends, Tsonga, faut qu'il se.
Toursounov.
Digère un peu aujourd'hui. L'Afrique non, mais du Sud, Toursounov ensuite.
Il y a un gros décalage.
Il y a le voyage surtout. Décalage, voilà. Non,
il y a deux heures.
Décalage, c'est que dalle, mais bon, la surface, la chaleur, le machin, tout ça. Rotterdam, faut faire attention à Rotterdam.
Attention de ne pas trop sortir. Tiens, on salue notre camarade Vincent Cognier, qui, comme chaque année d'ailleurs, est à Rotterdam.
Après tous les matchs. Hein.
C'est son tournoi.
Reporter de la rubrique tennis de l'équipe qui.
Mais ça ne nous
regarde pas. Mon petit Vincent, si tu es à Rotterdam et que tu nous écoutes, salut à toi. Il est 11h30 sur RTL, l'équipe. Avant de parler de l'Open Gaz, de recevoir Lionel Roux, nouvel entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, et de parler également de l'élection de Jean Gachassin, la tête de la FFT.
RTL l'équipe, carrément tennis, Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis, on va évoquer bien sûr l'Open Gaz du côté de Coubertin, GDF Suez. Hein, il faut dire maintenant, ça a changé de nom, attention. C'est plus Gaz de France, c'est GDF Suez, il faut faire très attention à ça. Ça se déroule toujours à Coubertin, c'est toujours un tournoi féminin. Et Myrthe Rambion est toujours présente pour RTL l'équipe pour
le suivre. Elle était même bien présente hier soir.
Ça ne change pas. Ouh, vous avez des infos peut-être à nous révéler. On va parler notamment des Françaises pour qui ça marche pas mal. De Serena Williams qui est vraiment la guest star de cette Open ici à Paris. On reviendra également sur la nomination de Jean Gachassin à la tête de la Fédération Française de Tennis et la nomination également de Lionel Roux comme entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. Il va nous rejoindre, Lionel, dans quelques minutes. Toujours avec nous, Myrthe Rambion, Julien Varlet, Benoît Mélin et Corinne Tongchai. Intéressons-nous donc à cette Open GDF Suez.
À Rotterdam, ça y est, c'est plié.
Vous voulez encore parler de Rotterdam?
Ah bah, on va peut-être faire l'émission dessus, Benoît.
Non, mais rapidement,
vous voulez parler de quoi?
Il faudrait quand même rappeler que Liodra tape Karlovic au premier tour.
On l'a dit. Hein.
Oui, non mais d'accord, mais Liodra...
Ensuite,
je vous rappelle qu'il est tenant du titre, il a une énorme pression, il n'a pas pu véritablement jouer depuis le début de la saison 2009 parce qu'il avait ce mal à l'épaule qui a apparemment résorbé.
D'accord.
Il fait un très bon... Il sert pas bien.
D'accord.
Hein, 5K, il se dit double faute, il s'en sort contre Karlovic,
c'est plutôt
balèze.
Ou...
Non, mais je trouve que Liodra va jouer contre mon fils, je suis curieux de le voir après son
première
abandon.
Sortie depuis l'Australie.
Et ouais, puis alors apparemment ça peut pas trop se soigner son histoire de petits problèmes, parce qu'il aura un kyste en fait.
Il a toujours un peu mal, mais il paraît qu'il peut jouer avec.
Voilà, il paraît qu'il peut jouer avec. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ils ont tous des kystes, les joueurs français. Gasquet, c'était un kyste au genou. Maintenant mon fils, il a un kyste au poignet. Enfin bon, c'est pas grave. On fait des kystes nous en France. Simon, lui, il a mal au dos. Alors bon, il a quasiment pas pu jouer là le week-end dernier.
Ah, vous êtes un représentant médical en fait.
Malheureusement, il faut intéressé à ça maintenant. Donc
cela dit, pour ta gouverne, Benoît, Gaël Monfils et Gilles Simon, samedi matin, s'entraînaient ensemble.
Oui.
Quand ça?
Entre kysteux et mal de dos, ils s'entraînaient ensemble.
Oui, d'accord, mais enfin bon.
Donc, voilà, ouais.
Alors tu ne mets pas trop la balle là et toi tu ne la mets pas trop là non plus.
Bon, pour l'instant, ça va. Il a passé son cap du Kohlschreiber au premier tour, pas simple. On va voir contre Mario Hancic.
Qui vient de faire finale à Zagreb, mais qui est encore un petit peu en.
Ouais, il y a des hauts et des bas de Hancic. Mais voilà, Simon, on va voir. Top 10. Donc,
il doit être en quart.
Ah bah ouais, à Rotterdam, ouais, c'est obligatoire. D'accord. Puisque normalement, il pourrait se retrouver face à Yuzny en quart, c'est
jouable. D'accord. Il va nous faire tout le tableau. Hein.
Non, mais les Français. Jiquel, je trouve ça marrant, puisque bon,
on l'a dit aussi.
On rappelle qu'il il a perdu au dernier tour des qualifs.
De l'émission.
En fait, il n'était pas là, Benoît.
Vous avez parlé de Jiquel.
Ah, oui.
J'ai dit qu'il avait perdu et qu'il avait battu Korolev.
Donc en fait, on va faire l'émission avec Myrthe et Julien. Parce voilà.
Vous savez quoi? Allez-vous prendre un café, Benoît Mélin, parce que vous n'êtes pas bien
réveillé. Il en a déjà bu deux.
Et Tsonga, vous en avez parlé?
Un peu.
Voilà. C'est bon ou pas?
Sinon, les Françaises à l'Open Gaz de Française.
Donc l'Open GDF Suez du côté de Coubertin, les couleurs sont quelles couleurs? Parce que ça change tout.
Et si on pourrait parler de
par contre,
non mais on pourrait
c'est vert, c'est plus rose.
Non, c'est vert.
On pourrait peut-être parler de Costa da Sauipé, non, ou un truc, non?
Ah, il y a Nicolas De Wilder.
Ouais.
Qui est là-bas.
Myrthe, on va peut-être faire l'émission toutes les deux.
Alors les filles, bleu, vert, mettez-vous d'accord.
Non, c'est vert. Bleu, ça y a été il y a quelques années où ça a passé
bien bleu.
Non, ils ont changé
les filles, on va pas faire un truc sur la couleur.
C'est important parce que c'est très important.
Avec la tenue de Serena Williams.
Non, mais ça va avec la surface.
Ça va avec celle qu'elle avait à la télé l'autre jour chez nos confrères de Canal+ pour le grand jeu.
Ah, bah celle qu'elle avait aussi.
Par contre, à l'antenne, autant sur place, on voit très bien la balle, autant l'antenne.
Mais les joueuses
limite.
Disent qu'elles ont eu du mal à s'adapter. Et si je disais bleu, c'est parce que certaines disent qu'au bout de 3 jeux, la balle prend une couleur bleue aussi un petit peu.
Non, elle s'en passe des choses.
Il y a des faux.
Et si on parlait tennis,
il y a des faux.
C'est ce qu'on fait.
Il s'en passe des choses quand même. Moi, j'aimais bien quand c'était mauve et rose.
Oui, mignon. Mais voilà, on change le nom, on change la couleur.
Bon, ce tableau, mine de rien, alors moi, Serena Williams m'intéresse au plus haut point, parce qu'elle a quand même gagné l'Open d'Australie. Vous allez me dire, comme Nadal, qu'est-ce qu'elle fait, Serena Williams?
Elle vient souvent au Gaz de France.
Non, mais d'accord, mais elle vient de gagner, elle vient de gagner l'Australie. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle adore Paris, elle adore Paris, elle adore Paris et elle adore ce tournoi.
Mais non, mais c'est là qu'elle a ouvert son palmarès. 99, c'est quand même incroyable. Elle adore Paris, elle voilà.
Elle a un appart ici.
Elle a un appart dans le 16e avec vue sur la Tour Eiffel.
La gamine, elle va se passer sa semaine, voire un peu plus, à aller
faire les boutiques,
Avenue
Montaigne.
Montaigne, à se bouffer des croissants parce qu'elle adore ça tous les matins. Je peux vous dire que. Au niveau du physique, il va falloir qu'elle fasse très attention parce que ça recommence
à enfler.
Elle
ne les mange pas les croissants, elle va vous le dire.
Elle est énorme.
Elle va les chercher.
En fait, elle les gobe.
Alors écoutez, parce que Serena Williams est une guest star quand même, il faut quand même le dire.
Ouais, bien sûr.
C'est une fille sympa.
Et en plus, elle est numéro un mondial. Elle est très sympa. Et regardez le petit entretien qu'elle a accordé à Myrti Rambion. In French, s'il vous plaît. Elle a fait l'effort et c'est tout simplement génial.
Ça va comme ça. Je suis fatiguée maintenant. Je veux jouer à dormir. À dormir.
Dormir. Vous aimez Paris?
Vous aimez Paris. Oh, yes, oui. Sorry. Of course, bien sûr.
Qu'est-ce que vous aimez à Paris?
Oui, bien sûr, j'aime Paris. J'adore Paris.
Et les croissants?
Non. Nos croissants pour moi. Nos croissants. C'est mon délire.
Et mais vous parlez bien français?
Tu penses?
Oui.
Penses-tu? Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Serena Williams. Donc, nos croissants, juste de l'eau.
Benoît est atterré, quand même, vous. Il est atterré.
Je suis affligé.
Non, mais c'est génial
mais
parce que.
Mais comment ça, c'est génial?
Mais c'est génial parce qu'elle fait l'effort de parler français.
Mais quel effort? Elle a de l'humour. Mais tu rigoles ou quoi? La fille, elle annonce deux mots. Si on faisait ça aux États-Unis, je peux vous dire que si on faisait soi-disant ça comme réponse aux Américains en faisant l'effort de parler anglais, mais même pas, ils nous parleraient parce qu'on serait pas capable de parler leur langue.
Ah non, je suis pas d'accord.
Elle a fait son discours en français sur le cours. Ah non, moi, je suis pas d'accord.
C'est Serena Williams.
Jamais entendu parler comme ça.
Of course, bien sûr.
Nos croissants pour moi, juste de l'eau, Benoît.
C'est niveau CP, quoi.
Mais c'est pas mal. Non,
là, les bras m'en tombent.
Ah non, vous avez pas le droit de dire ça.
Ouais,
de toute façon, il est anti. Il aime pas les filles.
Il aime pas les filles.
Pas du tout.
Non, il n'aime pas. Vous n'aimez pas les filles. Vous n'aimez pas les filles.
C'est pas vrai.
Pourtant, dans les
courses, Serena Williams, il y a un truc qui m'énerve avec Serena Williams, c'est qu'on fait un cinoche autour de cette fille. Ok, d'accord, elle est numéro 1 mondial et gagne des grands tournois. Point barre, qu'elle joue au tennis. Moi qui me prouve que toutes les semaines elles viennent pour jouer au tennis et après je lui parlerai avec, avec respect.
Mais quand on voit qu'elle gagne, Benoît, pourquoi voulez-vous qu'elle sente?
Quand elle vient, elle gagne.
Mais qui elle a joué au premier
mais
tour?
Mais oui, mais justement.
Elle a peur. Elle a peur de Carolina Sprem. Elle s'angoisse sur ce match. Faut arrêter, quoi.
Mais elle s'angoisse pas sur ce match.
Elle s'angoissera.
Elle a dit je m'inquiète de mon prochain match contre Carolina Sprem.
Elle s'angoissera presque peut-être d'affronter Émilie Loi en quart de finale.
Ouais. Alors super histoire.
Belle histoire.
Émilie Loi, c'était génial hier parce qu'on l'envoie jouer sur le cours numéro 1, savoir que le TCP, en fait, le Tennis Club de Paris, c'est le club qui est juste à côté de Coubertin, c'est chez elle. Donc il y avait vraiment une ambiance interclub. Elle ne savait pas si elle pourrait jouer le GDF Suez, pardon. Elle a fait les qualifs.
On a dit pendant 10 ans.
Elle sort des qualifs. Elle gagne un premier tour. Hier, elle est contre Gaïa Kanepi.
Vaïdissova, le premier tour, voilà. Quand même.
Hein. Oh, ouais,
mais Nicole, c'est
bon, même s'il n'y a plus de balle dans le cours.
Là, Gaïa Kanepi, qui est 24e mondiale, quelque chose comme ça, elle est menée 6-2, 3-0. Et alors là, elle aligne 10 jeux d'affilée. Elle en perd un. Et elle finit. Elle a des crampes de partout, au mollet, à l'aine. Et voilà. Et c'est quand même la belle histoire parce que, avec le système des points, en principe, elle va rentrer dans les 100. Ce qui veut dire qu'Émilie Loi va pouvoir rentrer dans le grand tableau à Roland-Garros. Et ça, c'est quand même la super histoire.
Parce qu'on se rappelle qu'à Roland-Garros, l'année dernière, elle avait fait un petit tournoi sympa. Elle était venue nous voir dans la cabine d'ailleurs d'RTL. L'équipe, elle disait oh, je sais pas si j'arrête ou pas. Elle en est toujours au même point, Émilie Loi. Elle sait pas trop. Mais en tout cas, elle voulait profiter à fond de son bonheur hier, de ce qui se passe en ce moment pour elle au GDF Suez.
C'est fabuleux que je sois la belle histoire. Ouais, la belle histoire de la semaine peut-être. Personnellement, c'est vraiment extraordinaire. Quelque temps, je me posais des questions et je sais pas quand est-ce que j'arrêterai. Ça peut être dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Mais au moins, je voulais revivre quelque chose de sympa, d'émouvant. Et là, je le vis aujourd'hui, donc c'est fabuleux. Je suis très satisfaite de ma carrière. Depuis mes débuts, je suis restée un petit peu sur ma faim, là, ces derniers temps. J'étais pas satisfaite de moi. Et là, ça me fait vraiment plaisir de toucher quelque chose, dont finalement je rêvais au moins. Et là, je le fais cette semaine. Et donc, voilà, j'espère que ça va continuer.
Voilà, Émilie Loi à votre micro, Myrtille Rambion, on lui fait un petit coucou parce qu'on l'aime bien, Émilie, elle est vraiment fort sympathique.
Je voudrais ajouter un truc, c'est que je n'ai rien contre les filles, mais je trouve, mine de rien, que ça discrédite quand même le niveau féminin, parce qu'on a Serena Williams qui, quand même, qui joue pas toute l'année, qui est numéro mondial, Émilie Loi, qui a plus d'entraîneur, qui sait jamais si elle arrête ou si elle continue, elle met quand même 1 et 4 à Vaidisova, qui était encore, qui faisait demi-finale il y a un an ou deux à l'Australian Open ou à Roland, qui était top 10, elle bat en 3 petits sets Kaya Kanepi.
Mais attends, moi je comprends pas. Je trouve que le niveau féminin est beaucoup plus relevé que mais il y a des années. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus obligé d'attendre les quarts de finale pour avoir du grand niveau.
Je suis d'accord.
On est en première semaine, elles sont meilleures. Après, derrière, Serena Williams. J'aimerais un jour qu'on parle de sa technique à Serena Williams, parce que c'est quand même impressionnant. Donc moi, j'en ai marre qu'on dise que ça discrédite le tennis féminin. Et la finale de l'Open d'Australie, eh ben quand Roger Federer à Roland-Garros, il se prend une tolasse. Quand à l'US Open, Murray, il se prend une tolasse contre Federer, on ne dit pas, ça discrédite le niveau du tennis masculin.
Ah mais moi, je suis tout à fait d'accord. À Roland-Garros, j'ai trouvé que Federer était dramatique. Non, mais c'est sur je trouve que les filles ont progressé, bien sûr, mais on n'a pas forcément les joueuses qui sont, entre guillemets, les plus concentrées, les plus assidues, qui sont dans le top 10, dans le top 20. Je trouve ça, il y a des trucs bizarres.
Allez, on va demander à quelqu'un de neutre d'arbitrer ce débat homme-femme, tennis masculin, tennis féminin, même si lui, c'est plutôt le tennis masculin qui l'intéresse. C'est Lionel Roux qui nous rejoint, le nouvel entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. Bonjour Lionel.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de parler de la Coupe Davis, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez écouté ce qu'a dit Myrtille et ce qu'ont dit Myrtille et Julien sur le tennis féminin. Vous partagez ce point de vue ? Vous défendez les filles ou pas ?
Non, je défends les filles, bien sûr. Maintenant, c'est un terrain un petit peu glissant, là, où j'ai pas envie trop de m'aventurer. J'ai rigolé quand j'ai entendu Benoît tout à l'heure parler de Serena Williams. Et juste par rapport à ça, moi, ce qui m'a gêné par rapport à Serena, et puis par rapport aux règles même de la WTA ou de l'ITF, c'était en Australie. Pour moi, elle doit pas gagner l'Australian Open, puisqu'elle est en train de perdre contre Kuznetsova, et puis on ferme le toit parce qu'il fait trop chaud, et puis du coup, elle a le temps de retourner au vestiaire, de prendre sa douche, de récupérer, ça dure 35-40 minutes, et puis bon, bah derrière, elle gagne contre Kuznetsova, alors que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, elle n'aurait pas gagné ce match, et donc voilà, elle ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Donc,
ouais, mais là, pour le coup, elle n'y est pour rien, le coup du toit. Et puis Kuznetsova, oui, Kuznetsova l'a bien aidé, quoi.
C'est les règles aussi qui font que voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Et voilà, c'était pour remettre un petit coup. C'est vrai que j'aime pas trop Serena Williams, donc voilà, c'était pour être dans la même lignée de ce qu'avait dit Benoît tout à l'heure.
Lionel, Myrtille Rambion et Corinne Tongchai, les deux filles de Carrément Tennis, vous dévisagerez à distance. Je vous raconte même pas. Bon, ce qui nous intéresse, c'est justement le tennis masculin et votre nomination à la tête de l'équipe de France comme entraîneur de Coupe Davis.
Ça le fait, hein.
Ça le fait, hein, Lionel. Ah ouais, ça c'est clair.
Ouais, non mais ça fait plaisir. C'est toujours une grande fierté de faire partie de l'équipe de France de Coupe Davis. Bon voilà, j'ai été en remplaçant, j'ai été joueur. Maintenant, je suis entraîneur. Ça me plaît, ça m'intéresse particulièrement parce qu'on va pouvoir travailler sur le rapport humain avec en plus un vivier de joueurs énorme. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, quand on voit le tennis français, bah il y a la possibilité dans les 7 années ou même dans les 3 années qui vont suivre de gagner plusieurs Coupes Davis.
Alors Lionel Roux, la question qui se pose, c'est bien sûr le passage entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il va falloir trouver le bon mélange. On parle bien sûr des nouveaux mousquetaires, même si on n'aime pas ce mot ici à Carrément en tennis, les Simon, les Tsonga, les Monfils, les Gasquet, et puis à l'ancienne génération, on va dire, avec les Grosjean, les Clément, les Mikael Audra, même dont vous avez été l'entraîneur personnel. Est-ce que clairement aujourd'hui votre rôle est de servir de transition, ou est-ce qu'on a le droit encore de tout mélanger?
Non, je pense qu'on a le droit encore de tout mélanger. Pour moi, c'est sûr qu'il y a les titres là qui sont devant en termes de classement, et puis je pense qu'ils ont aussi envie de s'approprier un petit peu tout ça. Ils ont leur mot à dire, et puis voilà, ils ont pour eux une certaine forme d'orgueil, mais on va dire positif. C'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi leur force, hein, de croire qu'ils peuvent aller très très loin à tout niveau, aussi bien au niveau individuel que collectif. Ils s'entendent bien. Après, je pense que voilà, une campagne de Coupe Davis, c'est 6 joueurs, donc voilà, il y a Mikael Audra que je connais bien, qui en simple a un petit peu plus de mal, mais bon, en double, ça reste quand même un joueur intéressant. Il y a aussi Jérémy Chardy, il ne faut pas oublier Paul-Henri Mathieu, qui vient justement de battre
Rotterdam.
Donc voilà, il y a 6-7 joueurs pour moi qui peuvent faire l'équipe aujourd'hui, même si bon bah voilà, tout de suite, les 4 avec Laudra bon devraient être indiscutables pour la première rencontre contre les Tchèques.
Julien Marley.
Ouais, Lionel, juste une petite question. Est-ce que le plus dur ne va pas être maintenant de gérer entre guillemets l'ego des joueurs, parce que ils sont, tu l'as dit, 4-6 à pouvoir jouer quasiment en simple. Ils sont tous potes. Mais mine de rien, maintenant, il y en a un ou deux qui ne vont pas jouer en simple, ils vont jouer qu'en double. Est-ce que certains joueurs vont être d'accord de ne pas jouer le vendredi et de se réserver que le samedi, de gérer cet égo-là ?
Bah, de toute façon, ils seront obligés de le faire. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde le classement des joueurs, ça sera difficile à gérer. Il faudra faire les bons choix. Maintenant, je pense que c'est aussi des joueurs intelligents. Il faut qu'ils tirent tous dans le même sens. J'ai eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec, notamment avec Gilles et avec Joe en Australie. Ils savent très bien, oui, que de toute façon, à un moment donné, il faudra qu'ils mettent le poing dans la poche et puis qu'ils avancent et qu'ils soient là aussi pour se mettre à disposition de l'équipe et pour servir l'équipe et pas forcément à chaque fois pour jouer. C'est ça aussi la force d'une équipe, c'est de temps en temps être sur le banc et être à 100% derrière les collègues.
Et Lionel, bonjour, c'est Benoît. Faut pas oublier, il est pas sélectionneur. Hein,
entraîneur.
Il est pas voilà. Capitaine. Ouais. Hein, il est entraîneur. Parce qu'on est en train de lui poser des questions sur.
Non, mais c'est surtout par rapport à voilà, par exemple, à Richard, est-ce qu'il va être d'accord à ne pas jouer le vendredi.
Ah mais ça, c'est pas son limite. Problème.
Hein. Il va lui faire bosser le coup droit.
Je suis d'accord, non, mais c'est ça va être quelque chose aussi à gérer entre Lionel, entre Guy aussi, quoi.
Ouais, une taloche, et puis tu vas voir. Excuse-moi, après Myrti, c'est toi, d'accord. Une question, Lionel, parce que personnellement, j'ai jamais mis les pieds dans une équipe de Coupe Davis. Quel va être ton rôle? Puisque ce sont quand même des mecs qui ont un entraîneur tout au long de l'année, tout au long de la saison. Tout d'un coup, ils vont arriver sur cette préparation, on va dire, une semaine avant, dans le meilleur des cas, pour ce premier tour de Coupe Davis, face à des Tchèques dangereux là-bas. Qu'est-ce que tu vas mettre en place, toi, pour en tant qu'entraîneur, quel est ton rôle?
C'est sûr, comme tu le dis, que voilà, je ne vais pas révolutionner le jeu des joueurs là, en 3-4 jours. Mon rôle, ça va être de beaucoup discuter avec les coachs, avec Tulane, avec Vinogradsky, avec Guillaume Père, avec Malcor, pour savoir déjà voilà comment les joueurs aiment bien s'entraîner la veille d'un match important, qu'est-ce qu'ils aiment faire, et puis ça sera aussi de fédérer les joueurs entre eux et d'arriver à trouver une bonne ambiance aussi au sein du groupe, en dehors du tennis, en dehors du court. Et ça c'est important. Après voilà, moi le fait que je commente aussi pour le groupe Canal depuis un petit moment, j'ai une base de données assez importante par rapport aux joueurs qui vont jouer, comme Stepanek et Berdych. Je les ai vus évoluer, eux aussi je les ai vus jouer dans des matchs importants. Donc ça après c'est des petites discussions avec eux, avec leur coach, avec Guy aussi, pour pouvoir les mettre dans les meilleures dispositions. Mais c'est sûr que le rôle de l'entraîneur au sein de la Coupe Davis, il va pas révolutionner leur jeu. C'est des petits réglages. Pour moi, c'est des petites formules, hein, en fait. C'est tous ces joueurs. Et c'est des petits réglages au dernier moment qu'il faudra faire avec, comme je disais, beaucoup de discussions avec leurs coachs qui, eux, les connaissent quand même très, très bien.
Alors, Lionel Roux, il y a eu longtemps hésitation sur le profil de l'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. On attendait également l'élection du nouveau président de la Fédération française de tennis. C'est désormais fait, bien sûr, avec Jean Gachassin. On avait parlé du retour d'Yannick Noah. On avait parlé de Rodolphe Gibert. On avait parlé de Nicolas Escudé qui, finalement, a pris la Fed Cup. Tout ça a mis du temps à se dessiner. Et certains disent également que votre profil est le profil idoine parce que, d'abord, vous avez connu le haut niveau. Vous avez été dans les 50 meilleurs mondiaux, notamment 48e en 95, vous avez fait partie de l'équipe de France de Coupe Davis, vous êtes consultant en effet pour le groupe Canal, vous avez vu beaucoup de matchs, et en plus vous n'êtes estampillé ni Fédé, ni Lagardère. C'était le profil idéal pour l'équipe de France de Coupe Davis?
Je ne sais pas, il faudra demander à Guy Forget qui a pris sa décision, mais c'est vrai que c'était un contexte un petit peu particulier avec, c'est vrai, vous l'avez dit, cette élection, le fait qu'il y ait Yann Noah qui avait plus ou moins dit oui, je viens pas et qui a envie certainement de revenir. Et puis il y a aussi le fait que je connaisse bien Guy, puisque voilà, c'est important, je pense que le sélectionneur s'entende bien avec son entraîneur. Et ça fait longtemps que je connais Guy, je l'ai connu quand il jouait en Coupe Davis où j'étais moi le cinquième homme. Je l'ai connu après au sein du groupe K. Il sait comment je bosse. Il connaît mes valeurs, et puis c'est vrai que le fait que je sois un petit peu électron libre, c'est-à-dire que voilà, que je sois pas étiqueté Fédé Lagardère, même si je trouve qu'il ne faut pas rentrer dans une guéguerre. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de guéguerre. Tous les joueurs le disent, ils s'entendent bien entre eux. Bon, voilà, c'est sûr que ça a peut-être pesé un petit peu dans la balance.
Ouais, et vous êtes aussi quelqu'un de très franc, hein. Parfois, vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Ça, c'est... On attend aussi ça de vous, quoi.
Ouais, bah, c'est aussi peut-être ce qui a fait pas mal avancer les choses en ma faveur. J'ai discuté avec Gilles, que je connaissais pas bien, et voilà, moi, je lui ai expliqué un petit peu comment je voyais les choses. Parce que lui était à l'origine, je crois, plutôt contre. Lui était plutôt pour Rodolphe Gilbert, puisqu'il s'est entraîné d'ailleurs avec Rod, donc voilà. Et c'est vrai que ça a été des discussions, j'ai envie de dire, d'hommes, voilà, où on s'est dit les choses. Je lui ai dit, voilà, moi, comment j'étais, comment je voyais la Coupe Davis, avec Joe Tsonga, qui me connaissait un petit peu mieux aussi. On s'est dit les choses, ouais, c'est vrai que bon, ben voilà, je suis assez franc, j'ai pas envie de tourner autour du pot pour dire les choses.
Bah, Lionel, faut dire la vérité. Tout le monde s'est posé la question de savoir pour Marat Safin, les yeux au beurre noir, c'est Lionel. C'est quand il s'énerve, il distribue, quoi.
D'accord.
Donc mais Lionel, une question pour redevenir sérieux, la dernière, après on te laisse tranquille. Tu flippes pas un peu quand même, parce que tu prends le poste d'un Patrice Agelhoeur qui est quand même un personnage emblématique de cette équipe de France de Coupe Davis. Il y avait Yannick Noah qui était potentiellement dans l'histoire, et puis tout d'un coup, c'est toi qui te retrouves là.
Et puis on attend beaucoup de cette équipe de France, puisque comme on a ces 4 joueurs, ou 5 ou 6, comme vous l'avez dit, on dit l'équipe de France a tout pour gagner la Coupe Davis, et il y a quand même un premier tour à Ostrava face à la République tchèque. Berdych et Stepanek, c'est pas non plus deux peintres, et ça sera à l'extérieur, et ça vient très vite, hein, 6-8 mars, donc il y a beaucoup de pression.
Une petite pression
Oui, forcément, une petite pression, mais l'adrénaline qui monte, mais l'envie d'y être aussi rapidement, et puis bon, après, il faut pas se voiler la face non plus, hein, c'est pas l'entraîneur qui joue, voilà.
Si.
Les joueurs, à un moment donné, voilà, ils sont sur le terrain, et c'est à eux d'assumer aussi leur rôle. Voilà, mais c'est une pression positive. C'est vrai qu'il y a de belles choses à faire avec cette équipe de France. Maintenant, voilà, j'ai 3 semaines pour entre guillemets, tout le monde me dit ouais pour les préparer, mais non, c'est pas moi qui vais les préparer, c'est leur coach, c'est les tournois qu'ils ont mis dans leur calendrier, et qui va les préparer pour la Coupe Davis. Voilà, moi je vais être là pour organiser, pour planifier, et puis pour qu'ils soient bien dans l'instant, et puis il y aura des petits réglages à faire au dernier moment, mais c'est tout, c'est eux après qui sont sur le court.
Ouais, et puis il va falloir gérer également tout ça entre les deux tours de Ligue des Champions aller-retour de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on rappelle que Lionel Roux est un fan de l'OL lyonnais pure souche. Il y a le Barça là juste avant, juste après la Coupe Davis, hein.
Ouais, bah, je vais me faire chambrer à mon avis un petit peu, même si j'attends de voir avant, ça peut, ça, si ça veut rigoler, c'est moi qui vais les chambrer un petit peu en Coupe Davis.
Ouais, ça va mettre de la bonne ambiance. Notamment avec Mickaël Audra, le parisien, hein, pour le titre,
ça va être très dur pour moi.
Merci beaucoup Lionel d'avoir été avec nous ce matin dans Carrément Tennis sur RTL L'Équipe. Lionel Roux, donc nouvel entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, qui disputera son premier tour face à la République tchèque à l'extérieur à Ostrava du 6 au 8 mars prochain.
RTL L'Équipe, Carrément Tennis, Eric Silvestro.
Lionel Roux nommé donc à la tête de... Pourquoi vous rigolez?
Parce que...
Il y a des trucs dans le casque, vous pouvez pas comprendre.
Ah, il y a des trucs dans le
casque. On peut pas tout vous dire.
D'accord. Non, ne me dites pas tout. La part de
secret. On parle de Coupe Davis ou
pas? La magie de la radio. Vous voulez parler de Coupe Davis?
Ouais, d'accord.
Le mec, il a rien compris dans le
livre. Ça s'appelle Alzheimer.
Ah,
c'était quoi son prénom?
Ça commence. Non, mais sans rien, ça va être chaud ce premier tour.
Ouais, ça va être dur parce que Berdych Stepanek, ça peut être.
Mais quoi, la France, quelle grande nation de tennis. On va pas craindre la République.
Alors là, merci, bravo. Viens.
Là, vous avez.
Elle est belle, celle-là. Elle est belle.
Là, vous a soufflé, là.
Là, elle est belle.
Purée, ça va lui coûter
sans
cher.
Sans voix, c'est rare de la part de Benoît.
Stepanek, Berdych, purée.
Et ben, Antoukova, si Boulkova, c'est du lourd.
Oh non, non, non.
Question suivante.
Antoukova, c'est pas du lourd.
Au niveau
non, mais
sur la balance.
Je rigole. En blague, sans figurer.
Sur la balance. Bon, en tout cas, on a également un nouveau président à la tête de la fédération. Il faut quand même en dire un mot. Jean Gachassin. Alors, c'est ni du lourd ni du grand, mais c'est du petit et
Peter
du
Pan.
Rapide. Peter Pan, son surnom.
Là,
c'est Roger Couder qui l'avait surnommé comme ça. Jean Gachassin, élu donc nouveau président de la fédération. Ouais, 61 kilos, enfin à l'époque. Maintenant, peut-être un peu plus quand même.
Tout ça parce qu'il a perdu des kilos, il assassine les autres.
Non, pas du tout, je l'assassine c'est pas. 1m61, 61 kilos, c'est quand il était international de rugby. Je suppose quand même qu'il a dû prendre 1 ou 2 kilos de plus.
Quelques années aussi.
Quelques années, oui. Bah, c'est très bien, ça lui va très bien. Il est toujours aussi jovial, Jean Gachassin.
Moi, je le connais quand même depuis quelques années parce qu'il était directeur du tournoi de bannière de Bigorre, qui était un futur que j'ai fait pendant quelques années à l'époque où je m'entraînais avec Georges Dogniaux. Et d'ailleurs, j'avais dormi même chez Jean Gassassin. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment qui peut apporter vraiment l'esprit sportif et compétition. Et ce qui peut être sympa. En plus, il connaît vraiment bien les joueurs. Ce qu'on ne pouvait pas donner à Christian Bim, mine de rien.
Dont il a été quand même le vice-président pendant des années. Hein.
Mais il connaît vraiment très bien les joueurs, il connaît bien le tennis parce qu'il a joué aussi. Donc vraiment, je pense que ça peut être quelque chose de positif.
Myrtille Ambion, il a eu une large majorité lors de l'élection avec sa liste FFT 2012. Il a 39 sièges sur 45. Donc il est tranquille pour mettre en place sa politique. Vous l'avez dit, c'est un foot sport. Alors il a été 2-6 à 17 ans au tennis. Il a été international de rugby, il a joué à 4 postes différents.
2-6 à son époque à 17 ans, je peux vous dire, c'est fort.
Ouais, c'était pas mal. D'ailleurs, il le considérait comme un des meilleurs espoirs. Et puis il est parti du jour au lendemain au rugby, où il avait été sélectionné.
Tête,
hein. Ouais, son entraîneur avait fait la tête à l'époque. Il a eu plus de 30 sélections en équipe de France de rugby. Et il courait même le 100 mètres en moins de 11 secondes, garçon. Donc, vrai sportif.
C'est tout à fait le genre de mec qui vous écœure, qui fasse n'importe quoi comme sport et qui réussit. Ça, déjà, je ne l'aime pas.
Mais cela dit, Eric, vous parliez de mettre son équipe en place, ce qu'il a déjà fait. Il est arrivé samedi, lundi, il y avait un nouveau directeur du tournoi de Roland-Garros.
Ouais, voilà.
C'est Gilbert Izerne, qui était juge arbitre de 88 à 99, qui revient donc en tant que directeur du tournoi, puisque Jean Gachassin, on va dire, délègue, entre guillemets, la gestion du tournoi de Roland-Garros. Avant, il y avait plusieurs personnes sous l'ère Christian Bim. Là, ce sera un directeur, Gilbert Izerne. Et puis, on a entendu Jean Gachassin également, qui souhaite avoir une couverture partielle, peut-être, en attendant la fameuse extension de Roland-Garros. Ça fait partie des grands dossiers. Comme Christian Bim, il la souhaite, peut-être pas à tout prix, mais il la souhaite aussi. Hein.
Ouais, j'ai lu ça, mais surtout ce qui est important, je pense que c'est qu'il ait fait beaucoup de sport et donc qu'il soit pluridisciplinaire. Il a une vision de chaque sport et peut-être qu'il va prendre le meilleur de chaque sport pour que le tennis puisse avancer et notamment sur le fait de couvrir un des cours.
Notamment sur la troisième mi-temps, il a dit qu'il apprendrait au tennisman à faire la troisième mi-temps.
Oui, il n'y a pas besoin de
ça. Je pense qu'il y en a qui savent déjà.
Oui. Pour la couverture, bon, on sait que ça va être un dossier épineux parce que pour le moment, on ne s'est pas réglé. On ne sait pas comment ça va pouvoir se faire, mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'est obligatoire pour Roland Garros de se doter de ce genre d'infrastructure, parce que quand on compare avec les autres grands chelems, on voit que c'est pas possible qu'un tournoi de l'envergure de Roland-Garros n'ait pas une possibilité de couvrir, de pourquoi pas, qui sait, un jour peut-être faire des nocturnes, et qu'on sait qu'il y a Madrid qui pousse derrière, que l'Asie pousse derrière pour pourquoi pas organiser un grand chelem. Donc Roland-Garros,
vous pouvez pas enlever Roland-Garros, c'est pas possible.
Non, je le souhaite pas, mais
je ne pense pas, mais je pense que dans les discussions,
la France, une grande nation de tennis, ouais,
non, mais que dans les discussions vont rentrer en considération ces choses-là, et en particulier la couverture
du
central.
Nouveauté quand même. Donc bien sûr, l'extension est toujours à l'ordre du jour. On va avoir de nouveau un chiffrage pour réaliser cette extension. Mais Jean Gachassin a quand même parlé d'une couverture, on va dire, temporaire pendant Roland-Garros pour éventuellement pouvoir disputer une finale s'il pleut ou quoi.
Ouais, alors au niveau de la pluie, ça serait vraiment intéressant. Mais il y a aussi un souci, c'est que faire des nocturnes à Roland-Garros, le problème, c'est qu'on est quand même dans une période où il fait quand même pas très très chaud. Et arriver 8h, 9h, jouer, ça caille quand même plutôt pas mal. Donc c'est ça le souci, surtout sur Roland-Garros, pour faire peut-être des night sessions. Et j'en ai discuté avec pas mal de joueurs, beaucoup des joueurs.
Il faut arrêter avec les night sessions, moi j'en peux
pitié,
plus.
Pitié.
Dernier truc, j'en reviens.
Business, business, d'accord, mais.
Oui, non, bien sûr. Beaucoup des joueurs.
Vous voulez vraiment m'énerver, vous, ce matin?
Non, je suis d'accord avec vous sur le dossier. Donc,
Beaucoup de joueurs sont vraiment contents que ce soit Gilbert Izerne qui revienne en tant que directeur, parce que ça a vraiment apporté au tournoi. Il a été quand même juge arbitre pendant 10 ans. Mm-hmm.
Il a servi de plomb chez ASO, parce que ce mec-là avait largement de quoi rester en place. Il s'occupait d'absolument tout à ASO sur l'organisation de leurs grosses manifestations. En fait, fallait virer un mec, ils l'ont viré. Donc c'est très très bien qu'on le récupère, lui. Pardon, excusez-moi.
Vous parlez au nom de Roland Garros?
Non, je parle au nom du tennis français.
Non,
c'est
sûr.
Tout à fait le genre de mec qui connaît son métier.
Et puis Jean Gachassin, son point faible, on va dire entre guillemets, c'est quand même l'anglais.
Ouais, ça va être un
pour être représenté dans les instances internationales. Christian Bim n'était pas très fort.
Mon cher Benoît Mélin, pendant des années.
Non, c'est lui, moi c'est Eric Silvestro.
Pendant des années, c'était monsieur.
Je sais que j'ai maigri, mais je suis pas encore rachitique comme
Benoît Mélin. C'était Jean-Noël Grinda qui faisait les discours de monsieur Christian Bim quand il était.
C'est vrai.
Il était.
Pour bonne nouvelle quand même, un peu de bonne humeur. Sans faire offense à notre ancien président.
Bonne ou mauvaise nouvelle, pour l'instant on sait pas du tout. Le mec est en place depuis moins d'une semaine, on verra bien.
En tout cas, il y a déjà pas mal de gens qui ont bougé.
Ouais, mais après, nommer des gens, c'est bien, ce sont les actions qui restent.
Jean Gachassin, un nouveau président de la Fédération française de tennis. Nous finirons sur cette belle phrase de Benoît Mélin.
Surtout, il se passe quoi ce week-end, Eric?
Qu'est-ce qui se passe ce week-end?
Il y a LGDF, il y a Rotterdam, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, dans tout ça.
Alors
Alors, aujourd'hui, dans le tournoi de Rotterdam...
Parce que Eric Silvestro se casse en vacances. Donc, à partir de là, ça n'y sort plus rien ne l'intéresse.
Non, mais vous rigolez, nos auditeurs le savent très bien. Total Sport, samedi et dimanche, tous les lives, le foot, le rugby. Hein, n'oubliez pas le rugby, quand même.
Et du rugby.
Ouais. Et il y aura du tennis également, bien sûr, avec Rotterdam et le GDF Suez. Tout ça, samedi et dimanche après-midi. Il y a le ski aussi à 13h30 tout à l'heure, la deuxième manche.
GDF Suez, c'est obligatoire, ça?
On vous dirait Open Gas Coubertin. Tournoi de Paris. Allez, on va faire
femme.
Court.
Parce que...
Femme, faut préciser. Bon, carrément tennis la semaine prochaine. Ce sera avec vous, Benoît Mélin, puisqu'en effet, vous venez de le dire, je serai en vacances la semaine prochaine. Ça arrive de temps en temps. Merci à vous d'être venus, Corinne Tongchai, Julien Varlet, Myrti Rambion et Benoît Mélin.
Merci.
See you Saturday pour Total Sport.
Oh là là, bah tu vois, t'es au niveau de Jean Gachassin.
Ouais, je pourrais être président de la Fédération Française de Tennis. Bon après-midi à tous sur l'antenne d'RTL L'Équipe. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Claire Corniou et Emmanuel Barthes. Et puis à 13h30, vous avez rendez-vous avec le live sur RTL L'Équipe, la deuxième manche du géant féminin.
RTL L'Équipe, carrément tennis, Eric Silvestro.